Oui, un débat critique autour du cinéma avec deux films qui ont fait forte impression et pour cause au dernier festival de Cannes. La plus précieuse des marchandises, c'est le premier film d'animation de Michel Hazanavicius et Diamant Brut, premier film tout court d'ailleurs, d'Agathe Rédinger. Et puis à 13h, je recevrai l'autrice Marine Schneider.
Merci beaucoup Marie.
Merci à vous Julie, vous êtes sur France Culture et il est midi. Et les titres de l'actualité de ce mercredi, c'est avec vous Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Marie. Face à la colère des agriculteurs qui s'exprime pour la troisième journée consécutive, la ministre Annie Genevard juge ce matin inacceptable tout blocage durable du pays. Or, on le verra, l'alliance majoritaire FNSEA Jeunes Agriculteurs prévoit déjà de manifester à nouveau la semaine prochaine. À suivre également Marine Le Pen qui fait monter la pression sur Michel Barnier ce matin. La chef de l'extrême droite a assuré que son parti n'hésiterait pas à censurer le gouvernement à la veille de Noël. L'actualité à l'étranger, c'est notamment la fatigue des Ukrainiens après plus de 1000 jours d'une guerre cauchemardesque. Nous serons à Kiev, on se rendra par ailleurs à Hong Kong où la justice est venue sonner une fois de plus ce matin le glas du combat démocratique. Enfin, après la dernière proposition en date de Donald Trump de nommer au poste de ministre de l'éducation une ex-patronne de la fédération de catch, on se demandera avec notre invitée aujourd'hui, la chercheuse Marie-Cécile Nave, jusqu'à quel point le président élu peut compter ou non sur le soutien des républicains.
Merci Thomas Cluzel et on vous retrouve à midi et demi pour le journal de la rédaction.
...12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
En route pour les midis, bienvenue à toutes et à tous. On est ensemble pour une heure et demie consacrée aujourd'hui au cinéma et à la littérature jeunesse. Tout à l'heure, pour la rencontre, je recevrai Marine Schneider, autrice, dessinatrice. Elle signe le magnifique album Minique chez Albin Michel Jeunesse. Mais d'abord, et comme chaque jour, on commence avec notre plateau de critiques. Aujourd'hui, on parle, c'est mercredi, c'est sortie ciné de cinéma. Nos critiques ont vu La plus précieuse des marchandises, le premier film d'animation de Michel Hazanavicius et Diamant Brut, premier long métrage d'Agathe Rédinger. Et ces critiques du jour, je vous les présente illico. Thierry Chaise, directeur de la rédaction du magazine Première, bonjour.
Bonjour.
Et Sophie Rosemont, critique et autrice, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux. Ça commence comme un conte, littéralement. Il était une fois une pauvre bûcheronne. Et tout y est, la forêt, l'hiver et l'enfant perdu. Cet enfant, c'est un bébé jeté dans de ces trains de marchandises qui passent souvent par là-bas. Pour son premier film d'animation, Michel Hazanavicius adapte un roman de Jean-Claude Grimbert. Jamais les mots nazi, juif, ni Shoah n'y sont prononcés, mais le réalisateur de The Artist ou d'OSS 117 représente pourtant l'antisémitisme et les camps, mais aussi la vie, les justes et l'amour. On va commencer par un avis de l'un et de l'autre. Thierry Chaise, c'est à vous.
J'ai beaucoup aimé ce film. Je trouve que pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'animation, il y a sur un côté formel une vraie réflexion sur comment représenter la Shoah et les justes et sans les citer, et qu'il parvient, ce qui est pour moi un exploit, à porter à l'écran ce qu'a voulu faire Grimbert quand il écrit, c'est-à-dire un conte. Et un conte sur un sujet comme ça, a priori c'est casse-gueule, et il se tire pour moi de la plupart des pièges.
Sophie Rosemont.
Oui, c'est en effet très risqué d'animer ce conte avec un trait d'ailleurs assez épais, assez magnifique, hein, de celui d'Hazanavicius. Donc pour moi c'est vraiment une révélation. Je découvre ses talents de dessinateur, même s'il avait fait les Beaux-Arts, et qui réussit à la fois à respecter le dogme lanzmannien de la représentation de la Shoah, et quand même il s'en affranchit à certains moments. Donc il y a pas de pathos, mais il y a de l'émotion, parfois très 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 palpable.
Alors on écoute la bande-annonce de La plus précieuse des marchandises.
Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère leur rendaient la vie bien difficile. Et puis, un jour...
Ça. Ne sais-tu pas à quelle espèce il appartient ? C'est un sans-cœur ! À mort, les sans-cœurs !
Les sans-cœurs ont un cœur.
La plus précieuse des marchandises, vous avez reconnu sans doute la voix de Jean-Louis Trintignant, qui est le narrateur, et celle de Grégory Gadebois, le bûcheron. On retrouve aussi Dominique Blanc, qui joue la bûcheronne, et Denis Podalydès, entre autres. Thierry Chaise, vous avez tout de suite insisté sur le travail formel de ce film.
Oui, parce que alors c'était une des choses les mieux cachées, mais chez Azavisius, en effet, dessine depuis toujours. Il avait eu l'intention, à un moment peut-être, de faire un film d'animation, et puis il avait abandonné, parce que faire un film d'animation, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Et en fait, ce qui l'y a amené, c'est vraiment ce livre de Jean-Claude Grimbert. Jean-Claude Grimbert, c'est un ami de ses parents. Depuis des années, depuis leur enfance, depuis qu'ils ont 16 ans. Donc lorsque le livre est sorti, qu'il a été adapté et qu'un producteur a dit à Grimbert, je vais le porter à l'écran, c'est Grimbert qui a dit, mais tu devrais aller voir Michel Azanavicius parce qu'il dessine depuis longtemps. Et Michel Azanavicius, c'est vrai que, un, il ne tenait pas spécialement à faire l'animation, et deux, il avait toujours dit, moi, s'il y a bien un sujet que je ne traiterai jamais, c'est la Shoah, je ne sais pas comment le représenter. Soit je fais un film dessus et je fais des ellipses, auquel cas c'est pas possible. Soit je montre et là je suis bien incapable de montrer. Et en fait c'est la manière dont c'est par cette histoire qu'il a l'animation. Et c'est pas l'inverse, c'est pas un désir d'animation qui trouve une histoire, c'est une histoire où, puisque c'est un conte, lui il dit de toute façon je ne peux le faire qu'en animation, je ne pourrais pas le faire en prise de vue réelle. Et à partir de là il y a toute une réflexion, et sur ce qui est vraiment purement la partie formelle, ce que j'aime moi beaucoup, c'est l'opposition qu'il parvient à faire entre donc tous les paysages de cette forêt où ce bébé jeté dans le train par son père, le train parle vers le camp de la mort, et la manière de jeter cet enfant, c'est peut-être de lui donner un minimum espoir de vivre, et où vivent ces bûcherons et cette bûcheronne. Il y a vraiment un travail de couleur extrêmement, mais très très beau. Lui a tout dessiné, mais évidemment après c'est une équipe qui s'occupe de ça. Et puis la représentation de la chose, où d'un seul coup l'image se fait, s'arrête, les traits seront plus gros, on passe d'image animée à inanimée. C'est une idée qui peut paraître simple, mais qui, je trouve, telle que c'est fait à l'écran, on est tellement pris par, je trouve, une beauté du début assez troublante, même y compris dans un hiver rude, que en effet c'est vraiment quelqu'un qui, voilà, qui fait de l'animation et qui l'a pris très au sérieux, et qui a travaillé sur chaque point et a vraiment fait un film de metteur en scène. Voilà, pour moi.
Et quand vous dites une image inanimée pour représenter les camps, c'est vraiment ça? Ce sont des images figées?
Voilà, il y a des images figées qui arrivent. Il y a d'abord des images qui ressemblent beaucoup au cri de Munch.
D'accord.
Alors lui, il dit qu'il s'en est peu inspiré. Ce qui est possible, parce qu'en fait, c'est les images qu'on a dans...
Pourtant, c'est vraiment le cri de Munch.
C'est incroyable. Et ce qui est drôle, c'est que pour arriver à tout ça, en fait, lui, il a tourné tout le film avec des acteurs dans le bois de Vincennes, pour voir comment ça pouvait... Donc, il dit que c'est génial à voir, parce qu'évidemment, il y a des joggeurs qui passent au fond et tout. Et à partir de là, il a pu montrer à ses équipes ce qu'il voulait faire.
D'accord. Sophie Rosemont, vous disiez qu'il respecte le dogme de Lanzmann, qui était « on ne représente pas la Shoah ». Mais finalement, comment il le respecte, comment il ne le respecte pas? Voilà, ça m'intéresse.
Oui, c'est exactement.
Ça.
C'est-à-dire que l'animation, c'est tout de même une représentation. Donc, si Azanavicius, durant tout le film, et d'ailleurs, la première partie est absolument superbe, ce blanc et ce noir de cette forêt, le fait que les mots juifs, Shoah, nazis, wagons, bestiaux ne soient pas prononcés, que que la pauvre bûcheronne dit qu'elle a recueilli cette petite fille et parle des dieux du train qui l'ont envoyé. Il y a des milliards de lectures et c'est assez métaphorique et en même temps c'est extrêmement direct. Mais arrivé à ce moment où il décide quand même de suivre cet homme qui a jeté le bébé, en parallèle avec l'homme qui recueille le bébé. Et là, quand même, on est à Auschwitz. C'est un oiseau qui nous conduit de la ferme très précaire des bûcherons et bûcheronnes à Auschwitz. On reconnaît Auschwitz-Birkenau. Et là, effectivement, il contourne ce dogme lanzmannien, c'est-à-dire que on voit les corps décharnés, on voit ces regards vides, complètement vidés de toute humanité, on le voit à l'agonie et finalement pas agonisant, et puis surtout on le voit dans une scène assez bouleversante où il pense retrouver sa fille et il se voit dans le reflet d'un miroir et il se voit tel qu'elle le voit lui, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est plus humain. Si c'est un homme, ça renvoie directement d'ailleurs à Primo Levi à ce moment-là, qui est mort à Auschwitz 40 ans après, comme disait Elie Wiesel. Donc c'est vrai que On peut être gêné. Moi, il y a des moments où j'étais un peu gênée. Et surtout, justement, ces images où on voit le visage de ce père encadré de, effectivement, de ces cris de Munch. On pense aussi aux couleurs de Bacon. Mais heureusement, ça dure assez peu de temps. Et puis, il y a la musique de Desplat aussi qui en fait 3 tonnes à ce moment-là.
Oui, c'est Alexandre Desplat qui fait la musique.
Voilà, donc là, multiprimé, oscarisé. Voilà. Ouais. Donc, tout le pathos qu'évite d'ailleurs très bien Zanavicius, il y a des moments où on est un peu à la frontière du Mexique, vous voyez. Mais. Tout de même, il y a quand même ce respect de... C'est de l'animation, effectivement. On ne voit pas de personne en chair et en os. D'ailleurs, il n'y avait plus de chair, il n'y avait plus d'os à montrer. Et effectivement, on en parle parce qu'il faut bien en parler et parce qu'il n'a pas voulu l'éluder, mais c'est 15% du film. Sinon, la véritable histoire, c'est juste. C'est ferme, c'est paysan, ce bûcheron, cette bûcheronne, et surtout ce formidable personnage de gueule cassée incarné par Denis Podalydès, qui est absolument bouleversant. D'ailleurs, il y a un travail de dessin sublime sur la moitié de ce visage qui est cassé et qui renvoie d'ailleurs aussi à une autre guerre. Donc ça, c'est à la fois universel et à la fois très poétique, métaphorique. Et puis, il y a aussi la voix de Trintignant, qu'on retrouve à la fin, d'ailleurs, dans le dernier plan, chérie, je ne sais pas si vous avez vu, on croit avoir passé à la silhouette de Trintignant.
Ah oui.
Oui, j'ai cru le voir sur ce dernier plan, qui est un plan bien des années plus tard, dans une gare, et on croit le voir passer, peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que la voix de Trintignant, qui a si bien incarné l'amour, des choses a priori très éloignées, l'amour, enfin, jusqu'à ces choses les plus dures avec Haneke, mais il y a quelque chose qui nous raccroche aussi au côté universaliste et actuel du conte. Parce que c'est ça aussi, le conte est censé être atemporel. Et la plus précieuse des marchandises, il est complètement, de par l'intention de Grimbert, qui est issu d'une famille qui a vécu de plein fouet la Shoah. Azanavicius, la même. Azanavicius est d'origine lituanienne et polonaise. Là, on est en Pologne. Mais qui ne nomme pas et qui nous permet de le ressentir d'autant plus fort. Et effectivement, cette poésie des... Enfin, moi, je trouve que le travail, effectivement, formel est très fort sur les dessins et aussi sur les voix, le son du train, le son d'une feuille qui... du bois qu'on coupe et ce cœur qui bat, les 100 cœurs ont un cœur.
C'est ça.
Dit le bûcheron à ses camarades, ses collègues extrêmement antisémites et rances. Et ça, c'est très, très beau, ce cœur qui bat.
Tu richesses sur le son, ça.
Ah oui, ça, c'est vraiment les pas dans la neige. Et d'ailleurs, c'est la scène où vraiment ce bébé donc, est balancé du train et tombe dans la neige et les pas pour la bûcheronne pour aller récupérer. Ce qu'elle pense peut-être être de la nourriture, elle ne sait pas ce qui est tombé.
Ce sont des gens très pauvres
aussi. Ce sont des gens extrêmement pauvres, vraiment vivant au milieu de cette forêt, tant bien que mal. Elle qui a voulu avoir des enfants et n'en a pas eu, c'est aussi un des éléments du film, évidemment. C'est en ça que ce n'est pas qu'un film à sujet, mais c'est aussi un film à personnage et à évolution de personnage. Et vraiment, la manière dont on ressent chaque pas qu'elle fait, et le train et ce train aussi, qui est vraiment le méchant du film, quasiment. Là, on voit bien le travail, même sur les éclairages, parce que c'est celui qui conduit vers la mort, évidemment, et tout ça est vrai. C'est-à-dire que quand il s'empare du conte, il s'en empare vraiment. La scène dont vous parliez tout à l'heure, qui est un oiseau qui va de cette forêt au camp. Si c'était un film en prise de vue réelle, c'est impossible. On rirait. Et l'animation permet cela. Eh bien, tout le long du film, je pense qu'Azavicius va jusqu'au bout de ce que peut permettre l'animation, à travers ce train qui est le méchant, à travers ce son qui est là. Il y a quelque chose de très sensoriel, en fait, et qui fait que d'un seul coup, ça, c'est ce qui peut éviter, à un moment, à mon avis, le pathos, c'est qu'on est pris dans quelque chose. Alors que c'est vrai que c'est quand même compliqué de ne pas être ému et bouleversé. Il faut être sans cœur, à la limite. Mais je trouve que, puisqu'il y a tout ce travail pour nous amener là, on est dans un état tel que plein de choses peuvent être évitées grâce à ça, et vraiment grâce à ce travail formel pour moi.
Sophie Rosemont, on en parlait juste avant l'émission, mais je pense que c'est bien d'en parler. À quel public se destine ce film d'animation ?
Oui, c'est vrai que quand je l'ai vu dans une séance qui présentait aussi un orchestre klezmer, d'ailleurs, il y avait beaucoup d'enfants de moins de 10 ans. Je trouve que c'est un peu jeune, même si c'est un conte et que ce n'est pas directement violent, et que voilà, il y a toute cette portée métaphorique, allégorique dont on parle, et cette immense poésie qui est celle d'Azanavicius et de Grimbert conjugué. Je pense qu'il faut pas le faire voir un enfant avant peut-être avant le collège, avant la sixième. C'est vraiment, pour moi, vraiment le minimum. Pas d'enfant en primaire, parce qu'il y a quand même justement ces scènes difficiles, et puis le destin quand même de ces justes. On parle quand même du sauvetage d'une petite fille qui va coûter la vie à deux hommes qui se sacrifient pour elle. On est dans ce sacrifice des justes, dans ce qu'il a de plus noble, de plus beau, et c'est absolument bouleversant. Et c'est montré quand même assez aussi frontalement, ouais, tout de même. C'est quand même de l'animation, c'est du dessin, d'ailleurs, le lapsus oui, c'est révélateur. Vrai, oui. Hein. C'est du trait, du train, hein. D'ailleurs, le trait est assez épais, et Azanavicius dit s'être inspiré de Gus Beaufort, cet illustrateur français du début du 20e, qui faisait vraiment ses dessins à un trait noir assez épais, et sur les couleurs, on pense à Bacon, évidemment. Mais en tout cas, oui, je pense qu'en termes de public, pour parler de façon très prosaïque, minimum la 6e. Avant, ça me semble un petit peu jeune, ça peut être très très bouleversant, si on n'est pas vraiment préparé.
Thierry Chaise, un dernier mot.
Moi, je veux dire que je suis étonné par la capacité de Azanavicius d'aborder 50 000 genres différents, ouais, qu'on aime ça, ou qu'on n'aime pas, OSS 117, The Artist, Coupé, le redoutable, le film sur Jean-Luc Godard. Mm-hmm. Voilà, c'est quelqu'un qui ose. Et ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois, il va au bout, justement. C'est pas juste, tiens, j'ai une idée, je vais le faire. Non, il va au bout de son idée. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez lui.
La plus précieuse des marchandises de Michel Azanavicius. Et c'est donc adapté, évidemment, du conte de Jean-Claude Grimbert, qui a paru au Seuil en 2019. Et Jean-Louis Trintignant, évidemment, c'était sa dernière apparition vocale. Thierry Chaise, maintenant c'est l'heure de votre coup de cœur.
Je vais vous amener au cœur de la bande du Splendide. Le livre,
c'est inattendu, voilà, sur France Culture, on a envie de dire.
Mais oui, et le livre est inattendu aussi. Ça s'appelle Le Splendide par le Splendide. Nous, nous sommes tant marrés, le sous-titre, et clin d'œil évidemment à tout cet univers du cinéma italien 70 dont ils sont fans. Et Josiane Balasco, Michel Blanc, Marianne Chazelle, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Hermite et Bruno Moineau, qu'il ne faut jamais oublier, se racontent. Le point de départ, c'est une séance photo qui avait été organisée pour Paris Match. L'idée est de faire, tiens, si on se racontait à travers un livre, et plutôt que quelqu'un le raconte, c'est vraiment eux. Donc ils sont allés fouiller les uns et les autres dans les cartons de leur jeunesse pour retrouver les anciennes photos et pour faire un récit à plusieurs voix de toute cette aventure. Qu'est-ce qui est formidable dans ce livre? C'est que l'épisode Les Bronzés n'arrive qu'au bout de la 116e page. Et pendant les 115 premières, on va avoir ce qui, au fond, n'a pas été beaucoup raconté, parce qu'il y avait très peu d'images d'archives, mais à travers leurs photos à eux, c'est-à-dire leur rencontre, Tila Shelton qui les initie au théâtre, les premiers éléments du théâtre, et la mise en place de ce groupe qui a quelque chose de très original. C'est un groupe sans leader. Alors on pourrait dire un groupe de beatniks, quand on c'est pas du tout des beatniks ni des gens forcément de gauche, quoi.
Non, oui.
Voilà.
Non, mais et c'était plutôt pas la jeunesse parisienne dorée.
Voilà, exactement. Et c'est un groupe qui jusqu'au bout, y compris jusqu'au ratage des Bronzés 3, a continué à travailler dans le collectif. Il y avait personne qui se mettait en avant, ils se répartissaient les tâches certes, mais tout le monde avait voix au chapitre. Et ce qui est formidable dans ce récit, c'est que forcément il y a plusieurs voix. Et la voix pour moi, la plus intéressante, la plus émouvante, parce que il est mort vraiment juste après avoir fini de relire les épreuves du livre, c'est celle de Michel Blanc. Parce que dans cette bande, Michel Blanc était l'empêcheur de tourner en rond. Michel Blanc, c'est celui qui part au monde des Brosefordiski parce qu'il s'ennuie. Il dit, moi, cette écriture où, en fait, on passait une journée à refaire le monde et ensuite on se mettait que l'après-midi à vraiment écrire, ça commençait à m'angoisser. Et on voit que c'est le plus angoissé de tous. Et à chaque fois, il est le contrepoint. Mais le contrepoint intéressant, parce que les autres peuvent répondre. Et disent, oui, mais, ah oui, pensez ça, mais... Et ça en fait, voilà, on croit tous les connaître, on a vu leur film un milliard de fois, et ce livre auquel Jean-Pierre Lavoignat a fait un vrai travail de reconstitution de la parole et de réorchestration, c'est un chef d'orchestre de tout ça, pour moi, permet de mieux les connaître, et une fois encore, il y a des photos folles dedans. C'est un plaisir à la fois des yeux assez drôles, et rarement je trouve qu'une troupe s'est racontée comme ça, et s'est racontée sans tout embellir et dire on était formidable du début à la fin, on s'est toujours bien entendu, pas du tout. Les conflits sont aussi mis en avant que ce qui domine le livre, c'est-à-dire cette amitié folle pendant autant d'années. Là aussi, normalement, le monde du spectacle, on ne résiste pas, surtout quand tout le monde part faire des carrières individuelles. Eux, c'est le cas.
Et donc, il a été fini juste avant la mort de
vraiment, le dernier de à avoir relu et donné son accord, c'est Michel Blanc. Et deux jours après, hélas, il disparaissait.
C'est donc Le Splendide par Le Splendide, Nous nous sommes tant marrés. Et c'est aux éditions du Cherche Midi par Jean-Pierre Lavoignat, il faut le préciser.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Premier long métrage directement sélectionné en compétition officielle à Cannes, au lieu du cinéma, mais aussi des paillettes. L'expérience a dû être un petit peu vertigineuse pour la réalisatrice Agathe Rélinger et sa comédienne, la comédienne Malou Kebizi. Le diamant brut du titre, eh bien, c'est elle. Elle incarne une certaine Liane Pougy, oui, comme la courtisane, la demi-mondaine et comédienne d'ailleurs de la belle époque. Cette Liane-là, elle a 19 ans, elle vit avec sa mère dans le béton de Fréjus et elle rêve de devenir en quelque sorte la Kim Kardashian française. Pour y parvenir, c'est évidemment vers la télé-réalité, les réseaux sociaux, qu'elle va se tourner. Et je précise que Malou Kebizi est en liste pour le César de la Révélation 2025. Un avis rapide de l'un et de l'autre. Sophie Rosemont, c'est à vous.
Ça serait bien mérité, ce César, parce que cette actrice est vraiment formidable. Elle a été castée pendant très longtemps et elle livre une performance où on la voit façonner son corps pour aller à la guerre, mais en fait pour être belle. Et d'ailleurs, c'est un film sur l'attente, sur ce qu'est censé être la beauté et sur le regard. Et tout cela, Agathe Rélinger nous le condense et nous le raconte à travers beaucoup de prismes dont on va parler. Mais en tout cas, moi, j'étais vraiment séduite pour ce premier long métrage, qui est d'ailleurs le déploiement d'un cours oui. qu'elle avait fait, Jupiter, en entendant Jupiter. Et donc, j'ai été vraiment séduite, aussi bien par la mise en scène que par le jeu de cette formidable interprète.
Thierry Chaise.
Oui, c'est un regard passionnant sur cet univers de la télé-réalité qui peut être propice à beaucoup de clichés. Dans un sens, dans un autre, on peut être trop en empathie ou au contraire regarder ça, ce qui n'a pas d'intérêt avec une espèce d'ironie. Et ce qui est formidable chez Rélinger, c'est qu'elle est, pour moi, tout le temps à la limite, c'est-à-dire qu'elle est évidemment en empathie avec ce personnage, mais qu'elle montre aussi tout ce que ça implique, c'est-à-dire ce désir de liberté par la célébrité implique aussi forcément une soumission à quelque chose. Et c'est cette manière de bien raconter les deux, de jamais se perdre de manière très tenue pour un premier long métrage que je trouve vraiment remarquablement écrit, qui fait que moi aussi j'ai vraiment fonctionné.
Alors on va écouter tout de suite la bande-annonce de Diamant Brut.
Coucou mes bébés, grâce à l'émission vous allez vraiment m'aimer. Je suis un soldat et cette revanche on va la faire ensemble.
Oui, Alexandra Ferrer, je suis directrice de casting pour la société Starshine qui produit des émissions de télé-réalité. Voilà, je vous appelle parce que la vidéo que vous nous avez envoyée nous intéresse beaucoup. Ce serait bien qu'on se rencontre. Vous me rappelez ?
Je m'appelle Liane Pougy, j'ai 19 ans.
Pourquoi tu veux faire de la télé-réalité ?
Ça, c'est ma collègue.
Je vais devenir la Kim Kardashian française, tu vas voir.
Ça, j'aime trop, elle me chavire.
On vous fabrique un bagage pour que vous trouviez un vrai travail.
C'est un vrai travail, la télé. Il y a des contrats, je vous signale.
Je vois pas bien l'utilité de tout ça.
C'est utile, parce que ça fait rêver les gens. Elle fait 15 000 euros par poste.
Sur les réseaux, elle se fait terminer H24.
Il n'y a plus de mauvais buzz aujourd'hui.
Mon destin, je le travaille. Le reste, c'est Dieu qui donne, frère.
On est collègues de galère, toi et moi.
Je me rappelle de toi.
Ça va, le sang?
T'as fait le casting, là.
On s'est déjà part habillé normalement. On dirait une Barbie.
Regarde, il y a 50 000 personnes qui m'aiment, ok?
Voilà, Diamant Brut d'Agathe Rélinger. On commence avec vous, Sophie Rosemont. C'est vrai que la jeune comédienne Malou Kebizi est crève l'écran.
Ah oui, elle crève complètement l'écran. Et d'ailleurs, cet écran qui témoigne du choix de la réalisatrice d'Agathe Rélinger de filmer en 4 tiers, un format ô combien photographique, mais ô combien esthétisant. Cette très jeune femme de Fréjus, d'où l'accent du Sud qui nous plaît pas mal quand même. Ça pas sa survie, mais sa quête de soi, sa quête d'être quelqu'un dans un environnement dans lequel elle étouffe, dans lequel elle est enfermée, dans lequel on l'emprisonne, parce que elle a des ongles très très longs, parce qu'elle a des rajouts, parce qu'elle a des sourcils pas possibles, et que tout ceci elle le trouve très beau et que les autres le trouvent pas très beau. Donc la réalisatrice d'ailleurs cite souvent Martial Reiss. Le mauvais goût, c'est vouloir à tout prix la beauté absolue. Voilà, qu'est-ce que le mauvais goût, qu'est-ce que la beauté? Ça, c'est déjà une question. Et tout ça, elle l'aborde à travers donc déjà ce point de vue formel du 4 tiers. Et à côté de ça, relié à des plans vraiment magnifiques qui évoquent aussi bien les tableaux de la Renaissance que les peintures pré-raphaélites. Parfois, on est assez stupéfait par la beauté des couleurs, des lignes. L'affiche en témoigne. Mmh. Comme elle le dit elle-même, la réalisatrice, cette fiche, c'est quelque part entre la Joconde et TikTok. Et donc ça marche extrêmement bien, cet anachronisme qui sert les émotions. Parce qu'au final, on parle de quoi ? D'une très jeune femme qui veut être quelqu'un parce qu'elle n'est pour elle personne pour sa mère. Andréa Bescon, absolument méconnaissable, vraiment formidable. Et qui qui se sert en fait de son statut d'influenceuse pour essayer d'être quelqu'un, est le graal ultime, le miracle, l'enjeu messianique, et c'est là où le film rentre dans une dimension religieuse, ça serait intégrer cette émission de télé-réalité. Et d'ailleurs, on le voit dans le casting, là on entend d'ailleurs la voix dans la bande-annonce de celle qui fait passer le casting, mais on ne la voit pas aller hors champ. Donc on se pose même la question, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est un fantasme total? Voilà, vraiment, ça donne à ce casting, à cette attente qui est insoutenable, parce que c'est ce que filme Diamant Brut, c'est elle attend de savoir si oui ou non elle va être choisie, si oui ou non elle va être l'élue. Et tout prend aussi des dimensions religieuses, parfois quasi christiques, sachant que Agathe Rininger sait aussi, parce qu'elle a épluché pas mal d'émissions de télé-réalité, que les candidats et candidates ont beaucoup de croyances, sont très religieux, invoquent beaucoup Dieu, prient beaucoup. Eliane est un personnage qui prie beaucoup et qui, malgré son hypersexualisation, ses mini-jupes, ça déborde un peu de partout, à tout point de vue, et vierge, en fait, elle ne veut pas se donner. Et voilà, donc en plus, il y a cet appel de la virginité, de la figure de la virginité. Donc tous ces paradigmes réunis font de ce premier film vraiment un film que je trouve plus qu'abouti, vraiment passionnant.
Thierry Jez, effectivement, vous parliez de clichés tout à l'heure, il y a un énorme risque quand même, parce que l'image de la jeune femme bimbo qui vient du Sud et qui veut être aimée, on l'a vu plein de fois au cinéma.
Plein de fois, et alors en plus, on vient de le voir avec la série culte, de cette manière.
Plus, mais sur le loft.
Sur le loft. Mais ce qui est intéressant, c'est que le loft racontait le début, enfin, la série culte raconte le début, et là, on est à la fin. Agathe Rininger a travaillé depuis des années, en effet, sur ce long métrage. Et quand elle a commencé à travailler dessus, le regard porté sur cette jeune femme n'était pas le même que celui d'aujourd'hui. Mais pour moi, c'est parce qu'elle a fait tout ce travail, parce qu'elle aussi, elle a regardé un peu de haut au départ, et puis petit à petit, elle s'y est intéressée. Elle avait vu un jour un documentaire sur les courtisanes, elle s'est dit, mais voilà, c'est ça mon lien. Et à partir de là, elle écrit, et je pense que c'est ça qui marche. C'est-à-dire, être à la fois avec, mais pas dupe. Pas juste faire... ce personnage est infiniment complexe. À chaque fois, on est un peu surpris par ce qu'elle pense, par ce qu'elle fait. Et la réalisatrice ne juge jamais, mais montre toute la complexité de la chose. Et qui dit complexité, dit chose où on se dit, mais elle fait n'importe quoi. Et sans juger, elle nous montre tout ça. Et elle laisse la place au spectateur de porter son regard à défaut d'un jugement. Et c'est ce que je trouve vraiment intéressant. C'est très compliqué de ne pas tomber, en effet, par l'esthétique, par certaines choses, en disant, bon, ok, c'est catalogué. Elle a un regard amoureux sur son personnage, mais pas sur la réalité en elle-même, où elle montre bien que derrière ce désir de liberté, il y a un moment, un asservissement, c'est-à-dire qu'il faut correspondre, il faut que son corps corresponde à quelque chose. Et ça, elle ne le... C'est pas formulé, mais c'est très bien montré, pour moi, je trouve, à l'écran.
Ce pacte faustien, voilà. On le retrouve souvent, on le retrouve même dans le The Substance de Coralie Farja, quelque part, c'est un peu le pendant.
Et puis elle s'inscrit aussi dans le sillage de Sean Baker, dont Anora vient de sortir, qu'elle cite très régulièrement, ou d'André Arnold, on pense aussi à America Honey. Là-dessus, elle obéit vraiment, effectivement, à ce mouvement de cinéaste qui filme les outsiders avec, comme disait Thierry, beaucoup d'amour, de lucidité, mais aussi beaucoup d'amour, et surtout sans mépris, et surtout sans mépris de classe. Parce que souvent, quand on les filme, il y a un mépris de classe. Et là, s'il s'agit de télé-réalité, on ne voit pas la télé-réalité. Donc, il n'y a pas de voyeurisme non plus.
Thierry Chaise,
un dernier mot. Ce qui est très beau, c'est aussi la manière de filmer ces vidéos TikTok. On ne voit jamais vraiment la vidéo, on voit l'enregistrement de la vidéo, et presque la quasi-souffrance que ça la met pour parvenir à un moment de joie qui est celui du partage. Et tout ça, c'est par des parties prises en scène. Souvent, c'est filmé à travers l'embrasure d'une porte. Il y a quelque chose, et qui correspond aussi à l'esprit voyeur de la télé-réalité. C'est vraiment très fin, ce travail qu'a fait Agathe Rininger.
Et donc, c'était Diamant Brut d'Agathe Rininger avec Malou Kebizi, Idir Azougli et, vous l'avez dit, Andréa Bescon, qui joue la mère dans ce film. On en reparlera peut-être donc au César. Sophie Rosemont, Thierry Chaise, merci beaucoup. Merci pour vos avis et pour vos regards. Vous qui nous écoutez, évidemment, maintenant, c'est à vous de vous faire une idée. Les références, les infos, c'est sur la page des Midi de Culture et sur le site de France Culture.
Vous êtes bien sur France Culture. Bonjour, c'est Marina Carrère d'Encausse. Gisèle Pellico, victime de viols sous soumission chimique, des enfants sidérés durant les abus qu'on leur impose, des centaines de milliers de personnes restent traumatisées par ces violences sexuelles, avec des conséquences graves pour leur santé mentale et physique. Dans un podcast de 6 épisodes, je vous propose de parler mémoire traumatique, amnésie, dissociation, mais aussi prise en charge et réparation, entretien avec Muriel Salmona, psychiatre.
Un podcast en 6 épisodes, à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Bonjour, c'est Antoine Guillot de Plan Large. Je vous donne rendez-vous à l'avant-première de Grand Tour en compagnie de son réalisateur Miguel Gomes. Suivez À travers l'Asie il y a un siècle, la course-poursuite amoureuse de Molly et Edward dans un étonnant dialogue entre images d'hier et d'aujourd'hui. Rendez-vous demain à 20h au Méliès à Montreuil. Infos et réservations sur franceculture.fr.
Très bientôt, midi et demi, vous êtes sur France Culture. À 12h50, on se retrouve avec le Point Culture de Marie Sorbier. Et puis à 13h, je recevrai Marine Schneider. Mais d'abord, on fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Face à la colère des agriculteurs qui s'expriment pour la troisième journée consécutive, la ministre Annie Genevard juge ce matin inacceptable tout blocage durable du pays. Or, on le verra, l'alliance majoritaire FNSEA Jeunes Agriculteurs prévoit déjà de manifester à nouveau la semaine prochaine. À suivre également Marine Le Pen qui fait monter la pression sur Michel Barnier. Ce matin, la chef de l'extrême droite a assuré que son parti n'hésiterait pas à censurer le gouvernement à la veille de Noël. L'actualité à l'étranger, c'est notamment la fatigue des Ukrainiens après plus de 1000 jours d'une guerre cauchemardesque. Nous serons à Kiev. On se rendra par ailleurs à Hong Kong où la justice est venue sonner une fois de plus ce matin le glas du combat démocratique. Enfin, après la dernière proposition en date de Donald Trump de nommer au poste de ministre de l'éducation une ex-patronne de la fédération de catch, on se demandera avec notre invité aujourd'hui jusqu'à quel point le président élu peut compter ou non sur le soutien des républicains. Que ce soit sur les barrages filtrants ou devant les préfectures, les raisons de la colère s'affichent désormais partout comme un nerf de déjà-vu moins d'un an après une vague de manifestations historiques dans les campagnes. La mobilisation des agriculteurs est entrée ce matin dans son troisième jour et déjà l'alliance majoritaire de la FNSEA avec les jeunes agriculteurs appelle donc à de nouveaux rassemblements la semaine prochaine. Hier, l'arrivée dans le mouvement de la coordination rurale située à droite, voire à l'extrême droite de l'échiquier politique, connue surtout pour ses actions souvent plus radicale et qui affirme vouloir, je cite, provoquer un chaos pour se faire entendre, a fait passer la pression à un niveau encore supérieur, notamment en menaçant à présent de bloquer le fret alimentaire. Alors, une première victoire a certes été obtenue avec l'annonce d'un débat suivi d'un vote à l'Assemblée mardi prochain sur le Mercosur, cet accord de libre-échange entre l'Union européenne d'un côté et plusieurs pays sud-américains de l'autre. Manière, une fois n'est pas coutume pour le Premier ministre d'afficher un front de refus. Unis restent en revanche les promesses en suspens, comprenez toutes les aides et les mesures de simplification obtenues après la crise de l'hiver dernier, mais qui ne se sont pas concrétisées. Mathilde Cariou, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Maintenant que la séquence donc Mercosur semble à peu près close, la FNSEA et les JA annoncent en somme le deuxième acte de la mobilisation. Il sera question de problématiques cette fois-ci franco-françaises avec deux sujets prioritaires, Mathilde, la simplification et la surtransposition. Transposition et en particulier sur la question phytosanitaire.
Mais c'est une formule qu'on entend beaucoup dans les manifestations, cette idée que la France veut faire plus blanc que blanc et donc interdit des produits autorisés ailleurs en Europe. Ça, c'est incompréhensible pour les agriculteurs. Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, l'a redit ce matin sur France Info.
Une matière active qui est interdite en Europe, parce qu'elle est considérée comme dangereuse, elle est interdite partout. Si une matière active est utilisée en Allemagne ou en Espagne, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas utilisée en France.
L'autre dossier qui est lié, vous l'avez dit Thomas, c'est la simplification, l'idée d'harmoniser les règles à l'échelle nationale. Je vais prendre un exemple entendu en début de semaine sur le terrain. En France, on a 17 textes différents sur la manière de planter les haies. Et en fait, les agriculteurs passent un temps fou à vérifier, à mesurer, à remplir des dossiers. Bref, ils estiment que ça entrave leur activité au quotidien. Il faut donc s'attendre la semaine prochaine à des actions du côté de l'ANSES, de l'Agence de l'eau, de l'Office français de la biodiversité. Dernier sujet qui dépasse la séquence précise de la semaine prochaine, la temporalité des 70 engagements pris l'an dernier par le gouvernement. Sur le site du ministère, on lit que 67% des promesses sont d'ores et déjà appliquées. C'est faux, estime encore Arnaud Rousseau.
quand, par exemple, ils ont annoncé des prêts de trésorerie, ils ont considéré que le travail était fait. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un agriculteur qui a eu un prêt de trésorerie.
Il reste 2/3 des engagements à aller chercher, conclut-il, c'est l'objectif d'ici le 15 décembre. Toujours, c'est sa formule dans le respect des biens et des personnes.
Merci Mathilde Cariou.
Alors au-delà de l'automne social décidément chargé, promis à Michel Barnier, l'autre difficulté pour le Premier ministre, sans majorité à l'Assemblée, reste invariablement la même.
Eh oui, comment consolider un socle commun, friable, sans s'aliéner ses oppositions. S'agissant notamment du projet de loi de finances, le chef du gouvernement lui-même a déjà laissé entendre qu'il n'aurait probablement pas d'autre choix que de recourir au 49-3, ce qui déclencherait aussitôt une motion de censure de la gauche. Et ce faisant, toute la question est aujourd'hui de savoir si les 141 députés de Marine Le Pen et d'Éric Ciotti décideront ou non d'y joindre leur voix. Or ce matin, la chef de l'extrême droite a assuré que son parti n'hésitera pas à censurer le gouvernement à la veille de Noël si le pouvoir d'achat venait à être amputé dans le projet de budget 2025. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour Thomas.
En clair, Marine Le Pen fait monter la pression, plus exactement, fait monter les enchères, quand bien même d'ailleurs son parti, Antoine, n'a pas nécessairement intérêt à faire tomber le gouvernement.
Oui, elle évoque une nouvelle fois la notion de ligne rouge. Ligne rouge, c'est la boussole officielle du Rassemblement national, le bien des Français, leur pouvoir d'achat. Et depuis plusieurs semaines, le RN souffle le chaud et le froid au sujet du vote ou non d'une prochaine motion de censure. Ses députés la voteront-ils? Ne la voteront-ils pas? Marine Le Pen laisse planer le doute. Sauf que depuis plusieurs jours, la tendance est à souffler plutôt du côté du chaud que du froid. La balance penche désormais clairement du côté du vote de la motion. Et forcément, on est tenté de faire le lien avec les réquisitions au procès des assistants parlementaires du RN. Des réquisitions sévères à l'encontre de celles qui souhaitent être candidates en 2027. Des réquisitions incluant son inéligibilité, un obstacle pour 2027 qu'elle n'a pas vu venir et qui change la donne. Depuis 2022, Marine Le Pen privilégiait la stratégie de la cravate, l'exemplarité de ses députés pour normaliser le parti, pour gagner l'Élysée. En ne votant pas la motion de censure, le RN sauverait le gouvernement Barnier et éviterait une crise politique inutile pour lui avant une nouvelle possible dissolution en juillet prochain et serait ainsi dans la continuité de la stratégie de la cravate sur le mode « on est responsable, on veut éviter le chaos en France ». Mais l'ombre de l'inéligibilité renverse la vapeur. Marine Le Pen risque l'exclusion du jeu et elle pourrait donc être tentée de renverser la table en votant la motion de censure, provoquer le chaos à défaut d'obtenir le pouvoir.
Merci Antoine Marette. Après 11 semaines d'audience, le procès des viols de Mazan entre aujourd'hui dans sa phase finale avec le début des plaidoiries, en l'occurrence celle des parties civiles pour commencer. Suivra ensuite à partir de lundi le 13 attendu réquisitoire du ministère public, le parquet qui aura la lourde tâche d'individualiser les peines pour chacun des 51 accusés, tous soupçonnés d'avoir abusé sexuellement durant des années de Gisèle Pellicot. Le verdict est attendu au plus tard le 20 décembre.
Midi et 37 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Son journal incarnait des valeurs fondamentales, l'état de droit, la liberté, la défense de la démocratie, autrement dit, tout ce sur quoi la région administrative spéciale de Hong Kong a désormais tiré un trait sous l'autorité de la Chine. Ce matin, l'homme d'affaires et militant pro-démocratie Jimmy Lai, 76 ans, le plus vieux prisonnier politique de Hong Kong, témoigna à son procès pour atteinte à la sécurité nationale, une prise de parole d'autant plus attendue, Dominique André, qu'elle intervient après quasiment 4 années de silence.
Vêtu d'une veste marron, Jimmy Lai est entré dans la salle d'audience en souriant à son épouse et au public aussi, venu démontrer son soutien aux manias de la presse libre. Le fondateur du grand quotidien hongkongais Apple Daily, très populaire mais aujourd'hui disparu, est apparu amaigri. Arrêté en 2020 et emprisonné, le plus vieux des prisonniers politiques de Hong Kong est accusé de conspiration avec des forces étrangères et d'avoir publié des articles qui soutenaient les manifestations pro-démocratie et qui critiquait le gouvernement chinois. C'est la première fois que Jimmy Lai s'exprimait lors de son procès. Il a plaidé non coupable. D'une voix calme, il a défendu la liberté de la presse devant ses juges avec ces mots « Plus vous avez d'informations, plus vous êtes au courant, plus vous êtes libre ». Interrogé par les juges sur ses relations avec l'étranger, cette figure de la lutte pro-démocratie a affirmé qu'il n'avait jamais utilisé ses contacts pour influencer la politique étrangère de Hong Kong. Jimmy Lai, citoyen britannique, risque la prison à vie.
Soumis à un déluge de feu, le Hezbollah libanais sera-t-il acculé à la négociation? Son chef doit s'exprimer dans la journée. En attendant, l'armée israélienne a encore intensifié de manière notoire ses bombardements sur les fiefs du parti chiite. Un message sanglant destiné à accentuer la pression sur la milice pro-iranienne. Et ce, alors que l'émissaire américain est en visite depuis hier à Beyrouth pour y négocier une proposition de trêve qui prévoit le déploiement de l'armée libanaise en même temps que le retrait du Hezbollah dans le sud du pays. De son côté, la bande de Gaza, déjà dévastée, soumise à la pire crise humanitaire de son histoire et où les victimes civiles se comptent par dizaines de milliers, va-t-elle être condamnée à une deuxième mort certaine? Il n'y a pas aujourd'hui d'alternative à la présence indispensable de l'UNRWA, a prévenu hier le commissaire général de l'agence de l'ONU. Or, l'interdiction de l'Agence des Nations Unies d'aide aux réfugiés palestiniens, votée par les élus israéliens, doit entrer en vigueur le 31 janvier.
Il n'aura pas fallu plus de 48 heures aux Ukrainiens pour mettre à profit le feu vert donné par la Maison-Blanche.
Oui, comprenez l'autorisation d'utiliser les missiles à longue portée américains pour frapper des cibles en Russie. Moscou a confirmé hier cette attaque, affirmant avoir intercepté 6 projectiles au total, dont 5 auraient été complètement détruits et le 6e endommagé. Dès ce matin, l'ambassade des États-Unis à Kiev a d'ailleurs fermé ses portes après avoir reçu des informations faisant état d'une possible attaque aérienne significative. Au 1001e jour de la guerre, le cauchemar continue donc pour les Ukrainiens épuisés et qui n'hésitent plus d'ailleurs à le dire ouvertement, comme en témoigne ce reportage à Kiev de notre envoyé spécial Virginie Pironon.
Dans son bar du centre-ville de Kiev, Olga, depuis le début de la guerre en 2022, a ouvert une cagnotte pour les soldats ukrainiens. Si les premiers mois, tout le monde donnait quelque chose, ce n'est plus le cas aujourd'hui.
On le ressent vraiment. Je suis en train de fermer la caisse et je le vois bien. Sur toutes les personnes qui ont consommé ce soir, une seule seulement a fait un don pour nos gars.
Putain,
je suis désolée de parler comme ça, mais c'est vraiment la merde.
Ivan est un habitué. Longue barbe rousse, cet entrepreneur refuse de se laisser abattre.
C'est un de leurs objectifs principaux, tuer en nous l'envie de vivre.
Irina, elle, pousse un long soupir quand on l'interroge sur les drones Shahed qui survolent constamment Kiev la nuit. Tu ne sais simplement pas ce qu'il faut faire. Si ça tombe, ça tombe. On n'a plus la force, dit-elle. La seule chose, c'est que je pense à mettre de beaux sous-vêtements. Je ne sais pas comment ça se passe pour les mecs, mais nous, on pense à ça. Si les sauveteurs doivent venir me chercher dans les décombres et que je ne suis pas présentable, ça ne va pas. En bientôt 3 années de guerre, la Russie a lancé 2500 missiles et drones sur Kiev, dont la moitié rien que cette année.
Un reportage à Kiev signé Virginie Pironon. Sur les 4 dossiers dans lesquels Donald Trump est inculpé, celui des paiements cachés à une star du porno est le seul pour lequel un procès a déjà eu lieu. Procès ayant abouti en l'occurrence au premier verdict de culpabilité pénale d'un ancien président des États-Unis. Autant dire qu'avant de rouvrir les portes de la Maison Blanche, le milliardaire a tout intérêt à voir ce dossier jeté définitivement aux oubliettes. Hier, le parquet de Manhattan a ouvert la voie justement à un nouveau report de sa peine. Désormais, c'est au juge de New York qu'il reviendra d'avoir le dernier mot. En attendant, le 47e président des États-Unis poursuit ses nominations à chaque fois plus déroutantes. Hier, puisant à nouveau parmi les plus fidèles au sein de sa garde rapprochée, il a proposé au poste de ministre de l'Éducation l'ancienne patronne de la Fédération de catch. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'IRIS. Bonjour madame.
Bonjour.
Donald Trump a donc annoncé cette nuit, je le disais, la nomination de Linda McMahon au poste de ministre de l'Éducation, qui, outre sa qualité donc d'ancienne patronne de la Fédération de catch, est aussi soupçonnée d'avoir laissé se poursuivre des agressions sexuelles sur mineurs dans l'affaire dite Ring Boy. Or, cette nomination ne détonne pas particulièrement avec le reste du casting qui a été annoncé jusqu'ici.
Oui, tout à fait. Les personnalités choisies pour être ministre ou responsable de l'administration de Trump qui prendra ses fonctions en janvier ont surtout fait preuve d'allégeance idéologique et ou financière, souvent les deux, à son égard, plutôt que n'ont montré leurs compétences techniques. Par exemple, un soutien inconditionnel contre la justice et les procès dont Trump fait l'objet, voire soutien aux mensonges sur l'élection volée de 2020, etc. En gros, pour être dans le gouvernement ou dans la haute administration de Trump, il faut baiser la bague du président. Et puis, il y a des problèmes de conflit d'intérêts. Et effectivement, vous l'avez bien dit, des affaires de viol ou de complicité de viol pour plusieurs d'entre eux ou d'entre elles.
Alors, toutes ces propositions de nomination devront malgré tout encore être approuvées par le Sénat, lequel est passé, on le sait, sous contrôle des Républicains. Malgré tout, certains indices montrent que les choix de Trump ont choqué jusque dans les rangs donc de son propre parti. Est-ce que certaines nominations pourraient encore être retoquées ?
On verra, mais c'est vrai qu'au niveau des procédures, Trump menace les sénateurs républicains qui refuseraient de confirmer ses nominations et les enjoint également à faire ses nominations dans des délais restreints, avec probablement J.D. Vance, donc le futur vice-président, à la manœuvre, qui est lui-même sénateur et qui est aujourd'hui dans les tractations avec les sénateurs. Vous savez, depuis la première élection de Trump en 2016, on entend le parti républicain un peu grommeler en privé, si je puis utiliser ce mot, mais finalement toujours soutenir Trump en public et dans les procédures qu'il lance. Donc, bon, j'ai un peu du mal à croire que le parti ne le suivra pas. Ceci dit, on verra, ça peut se jouer à peu de voix parce que la majorité au Sénat est quand même ténue.
Vous évoquiez à l'instant sa première élection. Est-ce que les profils choisis pour composer la future administration américaine sont très différents au fond de ceux qu'il avait sélectionnés en 2016 ? Autrement dit, est-ce qu'elle dessine un trumpisme différent de son premier mandat ?
Alors, c'est une très bonne question que vous posez, parce qu'effectivement, en 2016, il n'était pas du tout préparé à exercer les fonctions de président. Il avait été, on s'en souvient, lui-même un peu surpris de sa victoire. Et donc, il avait nommé un peu soit des gens de son entourage proche, mais plutôt du monde des affaires, soit des gens qu'on lui avait conseillé, que les partis lui avaient conseillé, mais qui ne connaissaient pas nécessairement. Cette fois, il est ultra préparé. Et donc, on a un certain nombre de gens qui, je le disais, font allégeance idéologique, c'est-à-dire qu'ils vont le suivre sur la ligne très dure en matière de lutte contre l'immigration, pas seulement illégale d'ailleurs, mais aussi légale, dans la dérégulation de l'État, dans la mise en accusation même de l'État de droit. Et un autre changement par rapport à 2016, c'est que les grands patrons qui ont financé la campagne de Trump vont prendre des postes dans l'administration, ils appellent une juste rétribution, si je puis dire. Par exemple, on a parlé de Musk qui ne sera pas ministre, mais qui pourrait diriger une équipe de déréguler très fortement la bureaucratie, et qui a demandé à Trump de placer aussi des dirigeants de SpaceX au Pentagone, c'est-à-dire au ministère de la Défense. On verra, voilà, c'est l'autre grande différence avec 2016, donc avec effectivement des risques énormes de conflits d'intérêts.
Est-ce que ça veut dire que tous les garde-fous qui pouvaient encore raccrocher Trump à un exercice raisonnable du pouvoir sont tombés aujourd'hui ?
On n'a jamais cru à un exercice raisonnable du pouvoir par Trump. C'est quelqu'un qui a des tentations autoritaires fortes, il l'a dit d'ailleurs. Et ça va être intéressant de voir ce qui se passe dans les faits, puisque d'un côté, on a la promesse d'une politique très libertarienne, c'est-à-dire de, je le disais, supprimer les régulations, notamment en matière économique et environnementale, et d'un autre côté, des velléités autoritaires, voire autoritaristes, notamment contre les femmes et les minorités. Donc ces deux choses sont assez contradictoires, mais on n'a jamais cru que Trump allait respecter les institutions. Il s'immisce même dans toutes les failles juridiques, dans toutes les imprécisions juridiques de la Constitution et des lois pour avancer non seulement son agenda, mais aussi imposer finalement ses propres procédures.
C'est bien noté. Merci Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'IRIS, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation. Alors face au malaise de l'élection de Trump, nombreux sont ceux à redouter un affaiblissement généralisé de l'action climatique. Sauf qu'à deux jours de la fin de la conférence pour le climat à Bakou, les pays développés dans leur ensemble restent pour la plupart toujours silencieux sur le montant qu'ils sont prêts à donner pour faire avancer la cause du climat. Raison aussi pour laquelle, dans l'attente d'un premier brouillon d'accord qui se fait attendre dans l'enceinte de la COP29, la société civile tente par tous les moyens de se faire entendre, mais sans trop faire de bruit, ce qui n'est pas toujours évident, comme a pu le constater notre envoyé spécial Véronique Robert-Hotte.
Une manifestation à la COP29 peut parfaitement passer inaperçue. Au milieu de la foule des négociateurs, une banderole est déployée devant la salle où les délégations officielles enchaînent les prises de parole. Le message des militants à l'extérieur porte sur l'obligation de trouver à cette COP29 un accord financier ambitieux et il concerne tous les pays. Lydie Nakpil, responsable d'une ONG aux Philippines.
Nous sommes 10 à manifester car c'est le nombre qui est autorisé par la sécurité des Nations Unies. On essaie de faire passer le message suivant. Pour les pays du Nord, payez votre dette climatique avec de l'argent public, des milliers de milliards de dollars. Et vous, pays du Sud, levez-vous pour vos droits, pour obtenir des milliers de milliards d'aides, pas seulement des centaines de milliards. On peut être là, mais seulement en étant silencieux. On n'est pas autorisé à faire des discours, à scander des slogans dans cette zone.
Les ministres ont défilé à la tribune toute la matinée, alors qu'un premier brouillon d'accord est attendu dans la nuit.
Un reportage à Bakou de Véronique Robert-Roth. Enfin, on l'a appris ce matin, Bernadette Després, la dessinatrice, co-autrice de la célèbre série incontournable de la littérature jeunesse, Les Aventures des Turbulents, Tom Tom et Nana, est morte. Elle était âgée de 83 ans. On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi humide sur le sud-ouest, plus calme partout ailleurs. Quant aux températures, elles seront comprises entre 4 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.
Merci Thomas Cluzel et à demain.
À demain.
Les midis, c'est pas fini. À 13h, comme promis, on discutera avec la dessinatrice et autrice Marine Schneider. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour Marie.
Bonjour Marie. C'est tout le secteur culturel d'une région qui risque de s'effondrer. Les Pays de la Loire ont annoncé vouloir réaliser 100 millions d'euros d'économies sur leur budget 2025. Et la culture risque d'en faire grandement les frais. Depuis quelques jours, les institutions s'alarment devant les baisses majeures, voire la suppression pure et simple des subventions. On a appris d'ailleurs ce matin, entre autres, l'arrêt total de la subvention pour le Festival du Chaînon Manquant à Laval. Et ce sont donc des milliers d'emplois qui sont menacés à court terme. Le choc des acteurs culturels en Pays de la Loire, c'est le dossier du Point Culture du jour. Jérémy Fabre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la maison Julien Gracq. Est-ce que vous vous attendiez à cette coupe drastique de la part de la région ?
Alors, pour le moment, nous, les informations que nous avons, c'est une baisse significative, en tout cas pour la Maison Julien Gracq, de subventions et à terme un désengagement. Donc, c'est les premières informations officielles que nous avons reçues. On attend d'en savoir plus. Honnêtement, non, je m'y attendais pas du tout. Et je pense que les choses sont encore... Moi, je crois encore en notre projet et au fait que les choses puissent évoluer. On s'y attendait pas du tout parce que, par exemple, nous, notre programme, il est parti à l'impression pour toute notre programmation 2025 parce que c'est très court en temps si les choses arrivent très vite et qu'aujourd'hui, en fait, on travaille avec beaucoup de partenaires très, très différents sur tout le territoire et qu'on est toujours dans un dialogue et une écoute.
Combien représentent à peu près les subventions de la région sur votre budget global ?
Alors, donc, la région aide la Maison Julien Gracq à hauteur de 120 000 euros pour le fonctionnement et les résidences, 15 000 euros pour le festival que nous organisons tous les deux ans de Nantes à Saint-Florent-le-Vieil.
Et ce qui représente combien, à peu près, en pourcentage, qu'on se rende compte ?
Alors, sur le fonctionnement, on est à 60%. Sur le global, on est à 40%.
Oui, donc ce qui est beaucoup.
Oui, c'est beaucoup. C'est notre premier financeur, c'est aussi notre la région des Pays de la Loire est présidente de la maison Julien Gracq statutairement. Donc oui, c'est beaucoup. C'est pour ça qu'on est un peu abasourdi par les premières nouvelles officielles que nous avons reçues.
Est-ce qu'il est possible, selon vous, de penser à un nouveau mode de financement sans la région ou en tout cas avec une moindre participation de la région ?
Sans la région, non. Alors après, pour tout vous dire, ça fait même pas une semaine. Donc je pense qu'il faut aussi du temps pour réfléchir de nouveau tout un projet qui n'a finalement que 10 ans et qui fonctionne comme il avait été pensé il y a 10 ans de façon pleine et entière que depuis 2022-23, puisque nous avons 3 appartements au sein de la maison Julien Gracq. Donc nous pouvons accueillir une vingtaine d'auteurs pour des résidences qui vont de 1 à 3 mois par an. Et en 2023, c'était la première fois que nous recevions, puisqu'on compte en mois de résidence, 25 mois de résidence. En 2024, 30 mois. Et la projection sur 2025 était de 35 mois de résidence, puisque nous avons fait entrer dans le mode de fonctionnement de notre structure de nouveaux partenaires, ce qui fait que notre projet a pris de l'ampleur, que le budget a augmenté, sans que nos partenaires historiques n'aient besoin de venir abonder davantage depuis ces dernières années.
Ce sont des nouveaux partenaires publics ou privés ?
Les deux. Donc ces nouveaux partenaires qui sont aujourd'hui présents à nos côtés en fait permettent à la structure d'accueillir davantage de résidences sans qu'il y ait une augmentation des financements du territoire. Depuis 2 ans, nous demandons également des bourses de façon ponctuelle au Centre National du Livre qui verse directement une bourse à l'auteur qui vient en résidence.
Alors est-ce que selon vous, qui êtes donc directeur d'une structure culturelle, est-ce qu'il faut entendre cette coupe et plus globalement la réduction de tout le financement culturel de la région comme une preuve que la culture n'est pas considérée comme nécessaire dans votre région? Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là?
Je ne sais pas. J'espère pas. Nous avons eu un appel téléphonique de la région pour nous annoncer ce qu'il advenait pour nous. Effectivement, si ce qui nous est annoncé pour la Maison Juinga, qui était de façon plus large, annoncé à d'autres partenaires avec lesquels on travaille aujourd'hui, j'espère pas.
Merci beaucoup, Jérémy Fabre.
Je vous en prie.
Et devant la crise qui s'annonce, le secteur culturel s'organise.
Oui, car le budget n'est pas encore voté, ce sera pour décembre, et pour l'instant, ces nouvelles ne sont encore que des annonces. Yves Jourdan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable Saint-Déac pour le Pays de la Loire. Le secteur culturel vient d'apprendre que la région compte baisser, alors on lit le chiffre de 75% les subventions. Quelles conséquences cela aurait concrètement sur le secteur, cette baisse-là ?
Alors effectivement, une petite précision quand même, ce 75%, ce sont des chiffres qui ont fuité par des élus présents à la commission. Donc effectivement, ce sont qu'une intention et pour l'instant, rien n'est fait. Et c'est pour ça que le combat continue. En tout cas, ce démantèlement, hein, puisque nous, ce qui est surpris au niveau du syndicat, c'est que le gouvernement Barnier demande 40 millions et on annonce ce chiffre aussi de 100 millions d'économies sur le secteur. Donc pourquoi faire plus que ce qui est demandé ? Donc vraiment le secteur se questionne vraiment sur cette démarche idéologique, voilà, et qui touche aussi le sport, la culture et la vie associative. Donc effectivement, l'impact il est très fort puisque des informations qu'on a, nous syndicats des différents lieux, il y a des appels qui ont lieu et c'est plutôt des conséquences. Il y a 3 grandes lignes qui ressortent. C'est une annonce de baisse pour 2025 importante et 100% en 2026 pour pas mal de lieux fortement subventionnés par la région. Et après, sur les aides, ben ça va de 50% à 100%. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une casse massive et qu'il y aura des impacts très très forts sur l'emploi et tout secteur confondu. Ce qu'on listait, on en parlait hier à notre Assemblée Générale, c'est bien sûr les artistes, les lieux, mais n'oublions pas tous les indépendants et aussi les libraires, les graphistes, les travailleurs indépendants, tout le secteur des arts visuels. Hein. C'est-à-dire vraiment là, c'est une attaque très très large.
Alors la présidente de la région s'est exprimée hein, suite aux annonces de cette baisse-là. Elle pose la question de la pérennité d'un système qui dépend de l'argent public. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette phrase-là ?
Alors cette phrase-là est justement eu un fort écho chez nous parce que ça signifierait que on est subventionné et qu'on tient que par ça. Et c'est vrai que ce système de dire que la culture est sous perfusion, hein, nous on dit plutôt le mot infusé, va se remettre en question finalement tout le modèle de la décentralisation culturelle qui existe depuis 50 ans, des compétences partagées et des financements croisés. C'est-à-dire que c'est un système que le monde entier trouve efficient et donc c'est ça qu'il est en train de casser. Et voilà, donc c'est 50 ans de politique culturelle dont la région a fortement participé aussi, hein, toutes les collectivités territoriales. Donc on ne comprend pas juste ce brusque, je dirais, changement d'orientation où la région y a participé fortement.
Vous avez employé le mot idéologique, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Eh bien, dire que quand à un moment on est à la gestion d'une présidence et que on doit diminuer un budget de 40 millions et qu'on passe à 100 millions, c'est-à-dire que vraiment derrière, il y a une vraie volonté politique de faire des changements et pas uniquement de gérer un budget.
Alors le budget sera voté en décembre prochain, c'est-à-dire il y a encore une petite marge d'action. Est-ce qu'il y a des mobilisations prévues ? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait ?
Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça c'est vraiment la vraie question. À quel niveau on peut intervenir ? Donc déjà, nous avons l'intersyndicale, employeurs et salariés, on fait des AG régulières et on voit que il y a énormément de monde. Et donc ça, on voit aussi, ça me démontre l'inquiétude. Hier, il y avait un autre AG, plus de 200 personnes, mais il y avait une AG aussi à Saint-Nazaire et dans différents lieux du département. Il y a une mobilisation qui monte et on voit vraiment que hier chez nous, il y avait beaucoup de d'arts visuels, de libraires et d'éditeurs. Donc on voit bien que là, c'est pour une fois, on est tous rassemblés. Et donc ça, c'est la première chose. Et donc, il y a une grande manifestation qui est prévue le 25 novembre à 8h30 devant le parvis de l'hôtel de région de Nantes, où là, la présidente de la région, Christelle Morançais, rencontre tous les maires du 44. Et donc, là, nous, on sera tous présents à 8h30 pour montrer notre mécontentement de ce qui se passe aujourd'hui. Et surtout, ce qui est le plus difficile, c'est que toutes ces décisions qui ont été prises, elles ont été faites sans dialogue ni concertation du tout. Hein, que ce soit avec les élus, nous, les syndicats, nous avons demandé un rendez-vous auprès de la présidente dès le 17 octobre et nous avons pour l'instant eu aucune réponse juste, peut-être un rendez-vous qui va se faire. Donc, 8h30, l'idée, c'est d'être devant, montrer notre mécontentement et surtout, et ce qui est le plus important, c'est d'élargir le mouvement à tous les secteurs, puisqu'il n'y a pas que la culture, nous on parle de la culture, mais le sport, la vie associative, toutes les associations autour de l'égalité hommes-femmes vont être impactées. Donc l'idée, c'est qu'on soit tous rassemblés et il y a des gens qui vont venir de toute la France, des syndicats et de tout le département pour venir à ce rassemblement.
Bien, merci, c'est bien noté Yves Jourdan, merci beaucoup.
Merci Marie Sorbier, on se retrouve demain pour un nouveau Point Culture. En attendant, il est bientôt 13h et vous écoutez les Midis de Culture.
Les Midis de Culture, Marie Laborie.